Notre quatrième rubrique définit précisément l'idéal des collègues réunis autour de ce micro. Elle s'intitule « Ils n'apprennent plus comme avant ». Non, cette affirmation n'est pas une catastrophe qui tomberait sur de malheureux professeurs de langues anciennes aux méthodes sclérosées. C'est bien au contraire une chance que saisissent nombre d'entre eux pour valoriser, vivifier leur enseignement. C'est par exemple le cas de Thierry Bayard, qui va prendre la parole pour nous montrer tout l'intérêt d'un travail d'oralisation à partir d'un film documentaire.
Nous ne voyons trop souvent des langues anciennes, et du latin en particulier, que sa dimension écrite, et c'est bien compréhensible. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une langue sans locuteur, une langue tout entière constituée des textes qui nous ont été transmis, et c'est toujours à travers le prisme de l'écrit que nous considérons notre domaine d'enseignement. D'un autre côté, nos élèves connaissent des difficultés toujours plus grandes à se confronter à l'écrit, d'autant que la particularité des langues anciennes est d'être des langues littéraires, puisqu'on les aborde forcément grâce au texte. Ce n'est plus pour nous une langue de communication.
Alors Thierry, faut-il pour autant s'avouer vaincu, capitulé ?
Non, face à ce constat pessimiste quant à l'avenir de notre discipline en général, et pour ce qui est de l'étude de la langue en particulier, il me semble que les anciens eux-mêmes nous fournissent une solution. En effet, les textes dont nous disposons sont actuellement consignés par écrit, mais il ne faut pas oublier le rôle primordial que jouait l'oralité dans l'Antiquité. Il ne faut pas perdre de vue, et rappeler aux élèves chaque fois que c'est possible, que ces textes qu'ils ont devant les yeux étaient lus à haute voix, et que d'ailleurs, la lecture silencieuse telle que nous la pratiquons est un mode de lecture que les Romains pratiquaient peu. On se faisait lire des textes, on assistait à des recitationes dans des odéons. À ce propos, les lettres de Pline le Jeune, par exemple, l'attestent, et il est fructueux de montrer lors d'une séquence, en troisième par exemple, cette modalité de lecture. Ainsi, bien avant de se sédimenter dans l'écrit, le latin est une langue destinée à être prononcée, proférée. Dans ce contexte, nous autres professeurs de latin et de grec, nous avons tout d'abord un rôle à jouer dans l'oralisation des textes que nous proposons aux élèves. Parfois, une lecture oralisée, expressive du professeur permet de faire entrer nos collégiens et lycéens dans un texte, de leur en faire comprendre le mouvement, le propos, la visée. Trois exemples. La célèbre anecdote du fantôme d'Athènes racontée par Pline se prête bien à ce type de lecture qui ménage le suspense et guide les élèves dans le texte. La poésie est bien sûr l'autre lieu privilégié de l'oralisation, puisque le jeu sur les sonorités, les répétitions, est ici porté à son maximum. Ne citons que le cas du poème 5 de Catulle, disponible comme plusieurs autres ressources sur Internet dans une version oralisée intéressante. L'oralisation guide dans ce cas la lecture et rend pour les élèves, la première phase de surprise et d'amusement passée, le latin plus vivant.
Et ne peut-on pas aussi utiliser le théâtre ?
En effet, bien sûr. Qui n'a pas vu comment le travail sur des passages de Plaute, avec un véritable travail de mise en scène, pouvait motiver des élèves et leur redonner une posture de lecteurs actifs quand il s'agit de comprendre comment ils doivent dire telle ou telle réplique. Je pense ici à deux extraits qui, dans le cadre de mon cours, marchent bien. Le monologue de l'avare dans l'Olularia, ou encore un texte que j'ai découvert plus récemment, qui est la leçon de Punique dans le Poénoulous, et qui permet aussi de traiter une séquence sur Carthage à travers cet extrait. C'est ici d'autant plus intéressant que la langue de Plaute sonne plus orale, a une vie et une dynamique qui peut entraîner les élèves.
Alors Thierry, peut-on travailler avec des élèves l'oralisation sur d'autres textes que des poèmes ou des extraits de pièces de théâtre ?
Cette année en troisième, j'ai construit une séquence autour d'extraits de la première Catilinaire de Cicéron. Le travail sur les textes d'art oratoire prend tout son sens grâce au passage par l'oralisation des extraits, à la fois par le professeur, afin de faire percevoir les effets stylistiques, mais aussi par les élèves auxquels il est demandé de mémoriser et d'interpréter un extrait de cette œuvre. Il est particulièrement intéressant de faire comprendre que les anaphores, répétitions, jeux sur les sonorités permettent également de mémoriser plus facilement le texte. L'oralisation s'appuie donc ici sur la maîtrise du texte, dans ce qui en fait un texte construit, travaillé et, n'ayons pas peur du mot, littéraire. Un tel projet peut s'appuyer sur le travail théâtral mené plutôt en classe de 4e, que l'on réactive alors, ce qui permet de montrer aux élèves le rôle important de l'actio dans le domaine politique et judiciaire à Rome. Ils perçoivent ainsi mieux, en pratiquant ces textes, le rapport entre acteur et orateur dans l'Antiquité, et, bien sûr, encore maintenant. Quelques mois plus tard, ma séquence consacrée à Auguste commence par le visionnage d'extraits d'un excellent docufiction, Le Destin de Rome, qui a l'intérêt et l'originalité d'avoir été enregistré en latin et en grec ancien sous-titré. Les élèves sont pour la première fois confrontés à des personnages s'exprimant à l'écran et qui plus est dans une œuvre récente, dans la langue qui leur semblait si désuète. J'utilise en particulier ce documentaire pour leur montrer les formes d'art oratoire. On trouve de fait dans ce film un discours d'Antoine destiné au sénateur, proche donc du contexte de la première catilinaire, un discours que ce même Antoine adresse au peuple romain, un discours destiné aux troupes dans un contexte militaire. J'ai fait travailler les élèves sur le discours d'Antoine lors des funérailles de César, discours au peuple. Après avoir fait correspondre le texte latin et la traduction des sous-titres, les élèves ont été invités à prendre la place d'Antoine et à interpréter au tableau ce discours, en s'inspirant du jeu de l'acteur qu'ils avaient vu. Mes élèves ont bien sûr d'abord été intrigués, puis se sont montrés très volontaires pour parler latin. De toutes ces expériences, je retiendrai la nécessité de passer le plus souvent par l'oral pour simplifier le rapport des élèves de langues anciennes avec le texte original. Peut-être conviendrait-il aussi de faire un travail plus personnel comme enseignant sur la prononciation du latin, en particulier sur l'accentuation des mots. On trouvera en ce sens de nombreux outils pour travailler ce domaine sur le site Ticketnung. Cependant, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette formation et trop souvent, nous n'osons pas tenter la prononciation restituée du latin. N'est-ce pas ici une résurgence de la timidité bien française devant toute langue, non pas seulement vivante, mais seulement parlée ? C'est un autre débat. Les souris et...